IDFM Radio, toute la culture que j'aime, votre rendez-vous culturel. Pour cette édition, nous allons parler théâtre avec une comédie, donc Les Amis du Placard au studio Iberto. Nous parlerons toujours théâtre avec quelque chose d'un peu plus littéraire, de Dostoïevski. Et ensuite, nous irons à l'Institut du Monde Arabe pour parler de la formidable exposition sur Cléopâtre. Et restez avec moi, car nous avons le plaisir de recevoir tout à l'heure le commissaire justement de l'exposition qui va nous parler du mythe, de l'icône Cléopâtre. À tout de suite.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, je reçois Mathieu Bailly. Bonsoir.
Bonsoir.
Mathieu, vous êtes comédien, vous jouez actuellement dans Les Amis du Placard, comédie au studio Héberto, pièce que vous avez d'ailleurs mis en scène. Les Amis du Placard, c'est une pièce que l'on découvre avec bonheur, hein, écrite par Gabor Rassoff, un Français, auteur français, oui. Écrite il y a une quinzaine d'années. C'est une comédie grinçante, proche de l'absurde, très drôle. Alors je vais quand même annoncer à nos auditeurs le pitch. C'est Jacques et Odile, un couple qui s'ennuie, s'achète deux amis. Ils les gardent dans un placard et leur demandent de sortir régulièrement dans l'espoir de passer une bonne soirée. Alors Mathieu Bailly, s'acheter des amis, c'est un sujet qui semblait très novateur, décalé en 2010, il y a 15 ans, hein, au moment de l'écriture, mais qui aujourd'hui finalement est plausible avec l'IA, là, l'intelligence artificielle, où on converse finalement avec du virtuel, une personne virtuelle qui devient presque notre ami. Et avec les réseaux, voilà. Alors pourquoi avez-vous remonté monté cette Les Amis du Placard aujourd'hui, pièce qui date d'il y a 15 ans?
Alors justement parce que c'est vrai qu'il y a 15 ans c'était une pièce plutôt d'un comique absurde, puisque c'était des situations qu'on n'envisageait pas vraiment de s'acheter des amis, même si déjà à l'époque il y avait ce sujet un peu de la marchandisation des relations humaines. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec tous les nouveaux outils, les nouvelles plateformes, les nouveaux usages, et puis avec aussi une société qui change, on se rend compte que cette pièce n'est plus si loin de choses un peu réelles. Alors certes, on ne peut pas acheter des amis, mais on voit déjà, et notamment dans d'autres pays comme le Japon, les États-Unis, des plateformes pour avoir des amis pour une soirée. Parce que et profitant un petit peu de la solitude finalement des gens, de la difficulté à se rencontrer, et donc nous on a voulu montrer un petit peu où on en était, et puis montrer que ce qui était absurde il y a 15 ans devient assez proche de la réalité, et que ça n'est pas forcément toujours enthousiasmant. Alors bien sûr on a poussé le curseur loin, puisque là le couple Jacques et Odile s'achètent des amis, mais Et c'est ça qui en fait une comédie. Après, c'est une comédie, effectivement, comme vous avez dit, grinçante, hein, puisque on rit, mais d'une situation qui est quand même assez dramatique. D'un côté, un couple qui s'ennuie tellement qu'ils en sont à acheter des amis, puis de l'autre, un couple qui accepte de se vendre. Donc c'est vraiment, c'est un rire, mais qui est un rire quand même, déjà qui fait réfléchir sur nous-mêmes et puis sur la société, puis aussi qui part d'une situation assez triste finalement.
Oui, alors deux duos d'acteurs, hein, deux couples, hein, pour cette pièce. Vous qui interprétez le rôle de Jacques et votre épouse Odile, ce sont eux qui s'ennuient profondément dans leur couple. Et un autre couple d'acteurs qui sont les amis du placard. Vous aviez déjà joué avec ce quartet, si on peut dire.
Alors, chacun avait joué quasiment avec les autres. Moi, j'avais déjà joué avec Camille, donc l'amie fille, et Camille avait déjà joué avec son collègue. Voilà, c'est bien aussi finalement de rencontrer des nouveaux acteurs, et notamment pour ce genre de pièces où ce sujet de la nouveauté, de s'acheter des amis, peut justement avec cette gêne qui s'installe. Donc on n'avait pas fait de pièces à quatre par le passé. Et là, pour le coup, ça a été un projet sur quelques mois de préparation dans lequel on s'est lancé ensemble.
Oui, on connaît assez peu finalement Gabor Rassoff, cet auteur qui est des années 65. Hein. Le texte, alors, il existe. Hein, il a été écrit, on le disait tout à l'heure, en 2010. Déjà joué au théâtre, hein, d'ailleurs, par Bénureau.
Oui, exactement. Didier Bénureau et Romane Boringer en 2010, lors de la création de la pièce.
Eh oui. Alors, cet auteur, il parle souvent de comme ça, d'humanité, de monstre humain, parce que finalement, on va pas tout révéler, mais on va vite se rendre compte que c'est ces deux, c'est ce couple, Jacques et Odile, sont vraiment, comment dire, très très inhumains.
Bah en fait, ça vient de leur ennui revient assez vite. C'est-à-dire qu'on se rend compte aussi dans cette pièce que quand on essaye de trouver des subterfuges à ces problèmes et qu'on essaye de les résoudre par des solutions qui sont pas sur soi-même, et ben finalement ça ne résout rien. Et donc l'ennui revient assez vite et évidemment ils profitent un peu à mauvais escient de leurs amis. Et donc c'est là qu'effectivement on voit leur inhumanité, mais qui vient de leur frustration et de leur ennui et de leur relation de couple. Et effectivement, Gabor s'est beaucoup attaché à ces côtés-là des hommes, hein, on va dire, avec d'abord des monstres un peu historiques comme Néron ou comme des héros un peu mythiques, ou Richard III par exemple. Et puis là, ce sont des anti-héros, si on peut dire, qui sont beaucoup plus contemporains, beaucoup plus du quotidien. On voit Jacques et Odile que je joue aujourd'hui, ça pourrait très bien être des voisins. Mais c'est quelque chose finalement qu'on voit aussi régulièrement aux actualités. Quand vous voyez des actualités avec un meurtre ou avec des choses sordides qui se passent au coin d'une rue, souvent vous avez des interviews des voisins qui disent « mais c'était quelqu'un de tout à fait normal ». Et c'est pour cette pièce, en fait, c'est vrai que ça, ce qui dérange et ce qui peut interpeller, c'est que Jacques et Odile, quand ils arrivent sur scène, c'est un couple normal. Quand ils sortent de la scène, c'est un couple qui redevient normal, assez jovial. Et puis au milieu, ils ont été des monstres dans le secret finalement de leur salon. Et c'est vrai que ça fait aussi se poser des questions parfois aux spectateurs qui se disent, c'est vrai que on ne connaît pas toujours l'intérieur de ces gens. Et c'est vrai que souvent on entend des choses qui se passent et on se dit, j'aurais pas cru.
Oui, et au fur et à mesure du spectacle, le trouble s'installe, parce qu'au début, Jacques et Odile sont plutôt accueillants avec eux, et puis voilà, au fur et à mesure, ils leur amènent même plus à manger dans le placard, ils leur proposent de venir au salon, mais les deux amis restent debout.
Donc, au départ, ils sont vraiment contents d'avoir trouvé cette solution à leur 20 ans, où ils commencent à s'ennuyer. Et puis, c'est vrai que très vite, comme on disait, hein, l'ennui revient. Et donc, il y a une espèce de sadisme qui arrive parce qu'ils profitent un petit peu de la situation, de leur situation de pouvoir sur leurs amis. Mais c'est des choses qu'on peut retrouver aussi dans le monde professionnel. Hein. On parle souvent de manager toxique, de petit chef, de ci, de là. Dès qu'il y a cette relation de pouvoir et de en l'occurrence de possession qui s'installe, ça crée ce genre de ça peut créer en tout cas ce genre de situation s'il n'y a pas quelque chose, un événement extérieur ou qui vient perturber ça et qui vient casser ce lien de pouvoir un peu malsain, quoi.
Oui, c'est ça, c'est une pièce donc aussi sur le pouvoir. Et que nous dit cette pièce des relations humaines, justement, dans ce couple? Comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à se régénérer, à trouver des idées pour être bien ensemble?
Alors, ils y arrivent en fait un peu dans la méchanceté. Finalement, c'est vrai que c'est ce qui les réunit, c'est qu'ils trouvent dans cette relation avec ses amis achetés, ils trouvent le moyen d'une certaine joie passagère, mais comme tous les toutes ces choses artificielles, ces choses achetées, ces choses monétisées, on se rend compte que ça ne joue qu'un temps. Mais c'est vrai un peu pour tout, hein. C'est vrai pour la consommation de d'autres biens. Il n'y a pas de biens plus concrets comme les vêtements, les machins. Enfin, quand on achète quelque chose, on c'est pas forcément quelque chose de durable. Et après, pourquoi il n'y arrive pas, c'est que sans doute au fil de l'eau s'est installé une distance, et Jacques que je joue est beaucoup plus lucide sur leur frustration, et cette lucidité en fait assez triste sur le monde qu'il peut avoir, le rend très cynique. Et donc ce cynisme, il crée la distance aussi, parce qu'il a un regard sur sa femme qui est pas forcément, qui est même détestable. Elle l'accepte, et puis ça crée cette distance dans ce couple.
Oui, alors Mathieu Bailly, vous faites du théâtre depuis une dizaine d'années, un peu plus. Vous aviez déjà joué dans Les Amis du placard, hein, c'est ça, en 2013?
Alors en fait, je l'avais fait plutôt dans un cadre, on va dire... scolaire, c'est-à-dire enfin de d'école de théâtre dans lequel on l'avait travaillé, mais on n'avait pas fait forcément de représentation publique. Mais effectivement, je l'avais faite. Après, il y a plusieurs manières de travailler cette pièce. Il y a des manières assez loufoques, absurdes, où du coup le spectateur voit tout de suite qu'on est dans un autre monde, et donc ça le distancie beaucoup. Donc c'est plus ça peut être un rire un peu plus simple, parce que finalement on a cette distance avec les personnages et on se dit de toute façon ça n'existera jamais, et nous on a essayé de le faire vraiment d'une autre manière, qui est la manière la plus concrète, en se disant on est dans la réalité. Ce service là d'acheter des amis n'existe pas, bien que on voit des fois des choses qui peuvent s'en rapprocher, ça rend les choses, et ça c'était un choix de mise en scène qui a plutôt semblé correspondre à l'auteur, hein, qui est venu nous voir pour la première, qui nous a dit que c'était plutôt le sens dans lequel il l'avait écrit, et voilà.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire ce ne sont pas des caricatures ni des figures extravagantes, ce sont des êtres profondément ordinaires.
Oui,
c'est ça.
Et c'est ça qui gêne en fait. C'est ça qui fait qu'on rit, mais on est parfois pas forcément à l'aise de rire, parce qu'on se dit que c'est tout à fait concret.
Oui.
Et c'était tout l'effort de faire ça. Oui.
Est-ce que vous avez suivi le texte de Gabor Rassov ou un peu adapté?
Ah non, c'est exactement le texte. Il y a un passage de qui est normalement un film qu'on a supprimé pour des contraintes techniques, mais sinon tout le texte est exactement le même.
Vous parlez-nous un peu de vous, de votre carrière. Vous avez peut-être d'autres projets en théâtre?
Alors oui, en termes de, alors on a chacun nos projets. Après, à titre personnel, moi, j'évolue un peu. Alors soit pour mes propres projets, donc là c'est un projet que j'ai monté depuis l'été. Et puis après, je participe aussi à des projets d'autres gens. Et il se trouve que l'année prochaine c'est le cinquantenaire de Malraux, André Malraux, de la mort, hein, d'André Malraux. Et donc avec qui je travaille régulièrement, nous aurons le plaisir de présenter une pièce sur sa vie. Voilà. Et donc dans laquelle je serai a priori André Malraux.
Très bien. Alors je rappelle le titre de la pièce pour nos auditeurs, Les Amis du placard. C'est au studio Héberto le mardi et le mercredi à 19h. Jusqu'à quelle date?
Jusqu'au 14 janvier.
14 janvier. Alors, parlons un petit peu, peut-être pour conclure, de la mise en scène. Ça fait partie de vos premières mises en scène?
Oui.
C'est ça. Alors, l'intérieur, un intérieur contemporain d'un couple aisé, on va dire, un peu plutôt moderne, un intérieur assez, assez plaisant. Et alors, voilà.
Le but, effectivement, c'était. Alors, c'est un huis clos. Hein, c'est une pièce qui se passe entièrement chez Jacques et Odile, on assiste à quelques soirées, journées de ce couple avec ses amis. Et donc, effectivement, là encore, le but, c'était que ce soit le plus réaliste possible. Alors, c'est un couple qui a effectivement, comme vous dites, un peu d'argent, mais qui n'est pas non plus très tourné vers les choses, ils préfèrent la consommation, et d'où leur achat d'amis la beauté ou quoi, hein, ils écoutent pas de musique, ils sont pas, voilà. Donc c'est un intérieur assez simple, et la mise en scène, pour le coup, c'est vrai que c'est aussi c'est une mise en scène qui est relativement simple au sens comme on disait, qu'on voulait que ce soit quotidien. Donc il y a pas de choses extraordinaires de technique ou de mise en scène, hein. C'est donc un salon et quatre amis, alors qui sont un peu factices, mais quatre amis qui se parlent et qui vont et dans lesquels ça va déraper. La seule chose qui puisse être un petit peu original, c'est qu'évidemment il y a des sujets un peu absurdes qui arrivent au fil de l'eau, parce que les demandes de Jacques et Odile sont de plus en plus absurdes, et les amis essayent de s'y plier tant bien que mal, et donc évidemment c'est là où c'est plutôt dans les rapports entre les gens, et donc après peut-être aussi dans ce que les gens vont essayer de faire avec les meubles et les choses qui font que ça devient absurde. Mais le concret du salon, il est tout à fait, on pourrait se retrouver chez soi. Et c'était vraiment aussi l'idée, c'est que les gens se disent, on est chez des gens tout à fait normaux qui pourraient être quelqu'un qu'on connaît, quoi.
Oui, ce qui accentue d'ailleurs le côté absurde et inhumain de la situation. Donc les amis du placard, Guy et Juliette, sont dans le placard au fond sur la droite. Voilà, ça oui. C'est très bien vu, parce qu'on y croit, hein. On est complètement dans l'appartement, on est avec eux.
Alors c'était la partie, oui, c'était une partie importante, parce que c'est vrai que et là pour le coup si on était dans des espaces au cinéma ou quoi, on peut fabriquer beaucoup de choses. Au théâtre, c'est vrai qu'on a cette contrainte de l'espace, de la technique, et donc, mais par contre sur le placard c'était impossible de transiger, parce que c'est vraiment l'élément phare de la pièce, hein, c'est même dans le titre. Et donc si on commence à se dire en fait le placard n'est pas réel, le spectateur tout de suite sort de la pièce et devient finalement il se rend compte qu'il est sur une scène de théâtre. Donc là vraiment l'effort sur le placard a été important, avec aussi ce petit jeu d'ombre qui permet de voir un petit peu la vie du couple acheté dans son placard. Donc oui, c'est vrai que ça a été le sujet le plus important. On y a passé un petit peu de temps sur ce placard.
Merci, merci beaucoup Mathieu Bailly. Je rappelle, hein, vous jouez dans Les Amis du Placard au studio et Berthaud, pièce que vous avez également mis en scène. C'est une pièce que j'ai aimée pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, elle nous fait réfléchir sur nos relations amicales et humaines. Et en plus, c'est très drôle.
Merci.
Donc courez-y vite. Merci beaucoup Mathieu, et on vous souhaite plein de succès pour Les Amis du Placard.
Merci. À
bientôt. Au revoir, merci.
Au revoir.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Nous venons d'entendre Donna Summer, Last Dance. Et je reçois Christophe Lapara qui va nous parler des Carnets du sous-sol, pièce de Dostoïevski au Théâtre Essaillon. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, Christophe Lapara, vous allez nous parler des Carnets du sous-sol, une pièce de Dostoïevski qui se joue actuellement au Théâtre Essaillon à Paris depuis un certain nombre d'années, depuis 1994. Christophe, vous vous êtes donné entièrement au théâtre, que ce soit dans un répertoire classique ou plus contemporain. Vous avez joué une multitude de rôles, notamment ces fameux Carnets du sous-sol dont nous allons parler, ou bien encore l'an dernier Les Liaisons dangereuses à Paris au Théâtre de l'Île Saint-Louis. Alors, les Carnets du sous-sol, donc c'est un seul en scène, vous l'avez d'ailleurs mis en scène, vous interprétez le rôle de cet homme anonyme, retraité, vivant à Saint-Pétersbourg, dans un sous-sol, nous livrant, j'ai envie de dire, son journal intime, sa vision de l'existence, sa conscience du monde, des hommes. Alors, votre interprétation est magnifique, d'une grande justesse. Qu'est-ce qui vous a amené à jouer dans cette pièce de Dostoïevski, assez peu connue finalement?
Alors, c'est la découverte de ce texte qui m'a été offert par une amie il y a une petite dizaine d'années. Elle m'a offert deux courts romans de Dostoïevski, donc celui-ci, Les Carnets du sous-sol, et un autre roman qui s'appelle La Douce. Et j'ai lu un été, j'ai lu ces deux romans. J'avais déjà lu Dostoïevski, d'autres textes de lui, mais j'avais jamais lu celui-ci, qui est un texte un peu comment dire, pas particulier, mais c'est pas le mot que je cherche, mais singulier dans le parcours de Dostoïevski, parce que c'est le premier texte de fiction qu'il écrit après son retour de bagne, après avoir été au bagne pendant plusieurs années. Et donc, quand j'ai lu ce texte, qui est en deux parties, la première partie s'appelle Le sous-sol, la deuxième c'est Sur la neige fondue, là je le joue dans la traduction d'André Markovitch, et ce qui m'a vraiment passionné, c'est que cette première partie, ça parle, parce que la seconde partie est un souvenir 20 ans plus tôt, mais la première partie, ça se passe au moment où il parle, au temps présent, à la première personne, c'est de lui dont il parle, et uniquement de lui, là, maintenant, tout de suite, de cet homme qui est en difficulté existentielle et en difficulté de rapport avec le monde et les autres. Et surtout, ce que Dostoïevski, à travers ce personnage, pointe, c'est son désaccord fondamental avec la pensée philosophique qui était maîtresse à son époque, à savoir le positivisme, qui décidait que l'homme n'a pas de libre arbitre, n'a aucune véritable liberté, qu'en fait tout est calculable, on peut tout savoir, l'homme ne décide de rien par lui-même. Et ça, Dostoïevski, vraiment, il est en total désaccord avec ça. Et donc ce personnage, qui se retranche dans son sous-sol, vient vraiment inventer des messieurs imaginaires qui seraient en fait les représentants de cette pensée-là, auquel lui, il vient apporter son discours contradictoire. Et moi, cette chose-là, de tout à coup, de s'opposer à son époque par rapport à une pensée dominante qui se veut être la vérité, la seule et unique vérité, m'a paru vraiment essentiel, et c'est fondamental pour moi également. Et en plus, ce texte faisait résonner avec, très lointainement, mais quand même, avec d'autres monologues que j'ai pu jouer, mettre en scène, comme notamment La nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Coltès, qui sont comme ça des personnages, à un moment donné, qui se mettent face à la société, et qui tout à coup déversent leurs paroles, leurs besoins de dire, de se dire.
Oui, alors vous parliez du contexte dans lequel Dostoïevski a écrit Les Carnets du sous-sol. On est en 1864, il sort du bagne, depuis 10 ans hein, quand
oui,
même.
Oui.
Il est dans une période difficile aussi.
Oui, très difficile, parce que ce texte a une particularité, c'est pour ça que je disais ça, c'est que non seulement il est après ce bagne, donc son premier texte, qu'il écrit après toute cette... Il a écrit d'autres textes avant, et puis il a écrit un journal pendant le moment où il était emprisonné. Et quand il revient, il écrit ce premier texte. Et il l'écrit dans un moment très particulier, à savoir que sa première femme, avec laquelle ils étaient dans, ils se sont beaucoup fait souffrir l'un l'autre, est en train de mourir. Et il la veille, il reste dans sa chambre, alors qu'elle perd du sang, etc. Il reste avec elle jusqu'à ce qu'elle décède. Et il écrit ce texte. Voilà. Qui, je pense, est beaucoup plus en résonance, cette chose-là, sur la seconde partie, parce que la seconde partie, c'est vraiment quelque chose de très fort par rapport à sa notion de culpabilité, qui est toujours très présente chez Dostoïevski, mais là qu'il l'est aussi, d'ailleurs il est vraiment pas sympathique avec une jeune prostituée dans la deuxième partie, vers laquelle il se sent coupable, et je pense que c'est là aussi où se rejoint son sentiment de culpabilité par rapport à sa propre femme. La première partie, il y a de la culpabilité, mais moins présente. On est plus sur l'espèce de j'ai besoin d'essayer de dire ce que je pense, comme je le pense, d'exister réellement et d'avoir le temps de déployer ma pensée, de l'affiner, de l'approfondir. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est le sous-sol, c'est aussi une métaphore dans le sens où il descend de plus en plus loin en lui-même. Et moi, d'ailleurs, j'ai voulu que le travail de lumière, plus ça avance, on part dans quelque chose de très en semi-obscur, etc. Et plus ça avance, plus ça s'illumine, parce que lui, il chemine de plus en plus vers ce qu'il le pend, vers la clarté de sa propre pensée, quoi.
Alors, le lieu est parfait.
Ah oui, extraordinaire. Hein, extraordinaire.
Le lieu, est-ce que vous pourriez rêver d'un lieu plus adapté, cette cave au théâtre Essaillon, en plein Paris, en face de Beaubourg? C'est parfait.
Ah oui, alors c'est extraordinaire que le spectacle se joue là. Je l'ai créé dans des théâtres qui n'étaient pas des théâtres souterrains comme ça. Et justement, j'avais très envie de le jouer dans des caves, de le jouer. Et ça a été un heureux hasard, la possibilité de rencontrer la direction de l'Essaillon pour qui programme le spectacle. Ça fait la troisième saison que je le reprends parce que j'adore ce spectacle, j'adore dire ce texte, je n'arrête pas de le découvrir, de le redécouvrir, et j'adore être dans ce lieu, dans cet endroit-là, qui vraiment épouse ce texte-là de manière absolument extraordinaire, et le rapport scène-salle, le rapport au public, parce que les gens sont très 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 proches de moi, et c'est très intéressant pour ce rapport d'intimité, parce que je voulais vraiment, j'avais cette envie que les spectateurs aient physiquement l'obligation de descendre eux aussi pour aller rejoindre ce type qui se dit moi je me suis mis là, viens qui veut, la porte est ouverte. Voilà, c'est pour ça que je suis au début aussi, je suis là, il est dans son sous-sol, on rentre chez lui, et c'est extraordinaire pour ça. Et d'ailleurs plein de gens en parlent en disant mais c'est génial comment le lieu est hyper juste par rapport au spectacle, par rapport au texte, au propos, à l'espace, et voilà, moi je suis ravi, enchanté d'être là-bas, quoi.
Oui, vous avez fait donc également la mise en scène et la scéno. Mmh. Alors dans cette cave, hein, justement, on ne sait pas trop si c'est sa chambre ou une cellule
monacale,
voilà. La place de la lumière est importante. Votre position au départ dans un coin, hein, les coins sont importants. Et puis après, dans cette petite baignoire sabot. Alors, est-ce que, donc ça fait trois saisons que vous jouez la pièce, est-ce que vous, votre personnage, cet homme retraité, est-ce qu'il a voulu. Est-ce qu'il y a des nuances, d'autres nuances peut-être?
À chaque représentation, c'est différent. J'ai bien sûr la mise en scène, elle est prévue. Je sais à quel moment je vais à tel endroit. Je sais quand la lumière va changer, etc. Mais c'est intéressant parce que j'ai des amis qui sont venus voir le spectacle la première saison où je jouais à l'Essaillon il y a 2 ans, et ils m'ont dit qu'après le spectacle, quand maintenant ils recommandent le spectacle à des gens, à leurs amis, etc., ils leur disent, allez voir ce comédien, il fait du jazz avec ce texte. Et j'avais jamais pensé à ça, et je trouve ça intéressant, cette idée qu'effectivement, il y a parce que comme à un moment donné, à chaque fois, il va déployer des grands pans de pensée. C'est exactement comme ces jazzman, hein, qui ont une espèce de moment où ils savent qu'ils doivent se retrouver tous ensemble à un endroit, et puis ils ont toute une part où tout à coup, ça... Et lui, il fait ça, il pose une grande question et il développe sa pensée à partir de ce point-là, et là, il va dans tous les sens et tout. Et ça, chaque soir, j'amène d'autres nuances, d'autres. Il y a des choses que je vais avoir fait hier que je vais faire différemment ce soir. C'est toujours le même texte, c'est toujours le même spectacle, etc. Mais à l'intérieur, ça n'arrête pas de vivre parce que ce que j'essaie le plus possible, c'est d'être moi dans un jeu sur le moment présent, pas dans quelque chose qui serait tout le temps la même chose. Voilà. Donc je me mets un peu en danger parce que j'essaie de ne pas être dans... tout est maîtrisé, mais en même temps, j'essaie de lâcher, d'abandonner des choses pour voir où ça va me mener aussi, où ce soir, tout à coup, si je lance ce grand questionnement-là, où le développement, de quelle manière je vais le traverser après. C'est ça qui m'intéresse, parce que c'est ce qui fait que c'est vivant chaque soir, que moi, je prends un plaisir à être complètement retraversé par ce texte et à l'offrir à l'écoute aux spectateurs.
Alors justement, vous parliez du message que nous apporte cet homme anonyme, cet homme retraité. Quel est-il finalement ? Est-ce qu'il veut nous parler de l'homme normal ? Donc l'homme normal est celui qui agit, peut-être sans penser à sa conscience, et de l'homme particulier, c'est lui qui veut se distinguer justement par sa conscience.
Alors oui, je sais pas le terme message tout ça. Je pense qu'il y a
sa pensée.
Oui, voilà sa pensée. Voilà. Alors effectivement, il oppose ces deux types de personnes qui seraient d'un côté ce qu'on appelle les hommes d'action, c'est-à-dire les hommes qui sont des entrepreneurs, qui savent faire les choses, etc. Mais qui pour le coup, puisqu'ils sont dans l'action, ne prennent pas le temps de se poser, de réfléchir et d'avoir la possibilité de découvrir, de comprendre, d'analyser si ce qu'ils sont en train de faire est une chose véritablement nécessaire, importante, essentielle, qui du coup prennent l'état des choses et du monde et de ce qu'on appellerait des réalités comme immuables. Il y a des certitudes dans ce monde qui sont notamment définies soit par les sciences, soit par etc. Et plein de personnes ne vont absolument pas remettre en cause tout ça. Ils vont dire, bah oui, c'est comme ça. Et à un moment donné, il prend l'exemple avec le 2 plus 2 qui fait nécessairement 4. Il dit, et alors si on se disait qu'il faisait 5? Ou alors, il dit, voilà, bah, un mur, on vous dit un mur, c'est un mur. Bah oui, mais si ce mur-là, je voulais le remettre en question aussi, tout à coup, on me dit, voilà, ça c'est la vérité. Vous n'avez pas à la remettre en question, vous devez l'accepter telle qu'elle est. Ça, ce serait les hommes d'action, et ça, c'est une chose dont il parle, c'est-à-dire que, à partir du moment où c'est la seule possibilité de faire des choses, c'est de ne pas les remettre en cause. À partir du moment où tout à coup on s'arrête, on se met à réfléchir, à regarder, à prendre du recul, à penser, à analyser, on s'aperçoit de toutes les incohérences, de toutes les choses totalement absurde, folle, inhumaine, cruelle de ce monde, de l'humanité, du fonctionnement, que ce soit le fonctionnement administratif ou politique ou social ou tout ce que vous voulez. Et là, forcément, on ne peut plus agir de manière aussi évidente, immédiate. On est obligé de se dire, est-ce que ce que je vais faire contribue à prolonger, à accentuer, à agrandir le désastre? Ou est-ce que justement je vais prendre le temps pour pouvoir faire quelque chose qui sera dans le sens d'une amélioration, d'un mieux, de quelque chose qui n'irait pas vers l'absurdité, qui n'irait pas vers une espèce de continuité comme ça, d'aveuglement. Est-ce que ce que je vais faire va proposer et va faire que on va un peu voir plus clairement dans tout ce monde et aussi, surtout, avant tout, en soi.
Oui. On fait une pause musicale, Christophe, et on reparle tout de suite des carnets du sous-sol au théâtre Essayons. À tout de suite.
La, 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 la. Le danger, c'est l'IA. Le danger, c'est l'IA. Le danger, c'est l'IA. Je te demande qu'est-ce que l'IA. À l'oreille, elles sont déjà sur nous, ils sont prêts à tout, à remettre les bouchées doubles. On serait pris la main dans le sac, si à l'avenir ça fait couac. Obéir aux doigts, à l'œil, à des terres pas de côté, que tout sentier détourné. Le danger c'est l'IA. Le danger c'est l'IA. Le danger c'est l'IA. Je demande qu'est-ce que l'IA. Ils ont du fil à tordre, les gentils donneurs d'ordre. Quant à leur numérique, une vie tient qu'à un clic, un sourire dressé. À la place du cerveau, orthographe tous, toujours au grand flou, tout informatus. FNIA pour le danger, c'est l'IA. Le danger, c'est l'IA. Le danger, c'est l'IA. L'école des élites, les besoins on les dicte. Ils ont du fil à retordre, les gentils donneurs d'ordre. Quant à l'ère numérique, la cadence est au pic. Oui, mais c'est l'IA, ouais. Danger, c'est l'IA. Le danger, c'est l'IA. Le danger, c'est l'IA. Les gentils donneurs d'ordre. Quant à l'heure numérique, la cadence est au clic. Oui, mais c'est l'IA. Le danger, c'est l'IA. Danger, c'est l'IA. Danger, c'est l'IA. Le danger, c'est l'IA.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Nous poursuivons notre entretien avec Christophe Lapara. On est toujours en train de parler des carnets du sous-sol, cette pièce de Dostoïevski qui se tient au théâtre Essaillon jusqu'au 20 janvier. Hein. On parlait justement du parcours de cet homme retraité qui est dans un sous-sol, qui nous fait part de sa pensée, de sa vie, de son existence. Et on parlait juste avant la pause musicale de l'importance parfois de s'arrêter. En effet, pour prendre conscience de, eh bien, de peut-être de sa vie, de ce que l'on a vraiment envie de faire. Pour revenir donc à la pièce, on a parlé de la mise en scène, on a parlé de Dostoïevski. Alors l'adaptation a été réalisée par Marie Ballet, puisqu'au départ c'est un roman.
Oui, c'est un roman en deux parties.
Vous l'aviez dit, publié en 1865. La pièce a été adaptée uniquement pour ce spectacle, ou est-ce que le texte existait déjà pour le théâtre ?
Non, alors le texte est édité aux éditions Actes Sud, dans la collection Babel. Il est traduit par André Markovitch et l'adaptation que nous en avons fait, principalement Marie, j'ai contribué, mais c'est vraiment Marie Ballet qui a vraiment travaillé vraiment réalisé cette adaptation. C'est la nôtre, quoi. Enfin, c'est la sienne, mais c'est celle de notre spectacle. Il y a les autres personnes qui prennent le texte, qui l'adaptent autrement, peuvent adapter, peut-être parfois certains proposent les deux parties. Voilà, il y a eu d'autres adaptations. Il y a Patrice Chéreau, notamment, qui à un moment donné en faisait des lectures. Je sais pas exactement s'il lisait les deux parties bon, je pense pas qu'il lisait l'intégralité parce que ce serait très long, même si c'est un court roman par rapport aux autres de Dostoïevski. Donc ça, c'est vraiment l'adaptation pour mon spectacle,
oui,
du texte par Marie et moi.
Oui, parce qu'elle a été assez peu jouée finalement, cette pièce.
Elle est assez peu jouée. Elle est jouée, mais assez rarement. Ce texte est assez rarement effectivement adapté au théâtre. Ça arrive. Hein. Moi, j'en ai encore jamais vu d'adaptation. Enfin, je veux dire, j'ai vu que ça se jouait, mais j'en ai encore jamais vu en tant que spectateur. Je suis jamais allé voir d'adaptation. Je serais intéressé par en voir d'ailleurs. Mais effectivement, c'est peut-être moins adapté que ses plus grands romans, ou quand je dis grands romans, c'est-à-dire ce dont on parle beaucoup, Crime et Châtiment, etc. En sachant que ce texte-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs points comme ça, c'est que on dit que ce texte contient en germe, en fait, déjà tous les grands questionnements, thèmes, etc., que Dostoïevski va ne faire que développer plus amplement dans ses grands romans. Et l'autre chose qui est très intéressante avec Les Carnets du sous-sol, c'est que j'ai plusieurs spectateurs qui viennent me dire, à l'occasion des représentations, après les représentations, qu'ils ont, eux, un rapport particulier avec ce texte-là de Dostoïevski, qui est un texte qui les accompagne dans leur vie. Voilà. Et ça, j'ai joué d'autres textes, etc. Et c'est assez rare que des gens viennent vous dire, vous savez, je suis venu voir ce spectacle parce que ce texte-là est un texte, quelque part, encore une fois, fondamental dans ma vie, voilà, qui me parle, ou avec lequel je chemine. Et ça, oui, c'est intéressant.
Oui, parce que vous le disiez tout à l'heure, c'est un homme qui est dans un certain contexte dans sa vie et qui, justement, fait une pause, un moment dans son existence, en se retranchant sur lui-même. Alors, pour vous qui l'incarnez, Christophe, est-ce que cet homme est fragile, mais est-ce qu'il est quand même optimiste ?
L'optimisme, je pense qu'à partir du moment où on est vivant et qu'on reste vivant, on est optimiste. Et je pense qu'il n'est pas forcément très optimiste sur l'avenir de l'homme et sur la capacité de l'homme à cesser d'être dans l'ingratitude, comme il le dit, vis-à-vis de lui-même, des autres et du monde, et dans l'immense bêtise, on en a actuellement d'incroyables exemples, hein, dans notre société actuelle à tous les niveaux. Donc malheureusement, voilà, ça pointe pas vers l'optimisme, mais en revanche, moi je crois que ce qui est et ce qui me fait adorer ce texte et avoir la nécessité de le dire, c'est que je trouve important que quelqu'un puisse à un moment donné, comme ça, se dire « je me retranche du monde parce que ce monde dans lequel je vis ne me permet pas de pouvoir être comme dans une espèce de justesse avec moi-même. Il y a quelque chose qui ne me convient pas, ça me demande trop d'efforts, trop de d'être dans trop, quelque chose de trop faux, de trop loin de moi, qui fait que forcément je ne peux que souffrir. Alors ça va pas être sans souffrance que de se retrancher du monde, de vivre dans son sous-sol seul, etc., mais au moins je peux cesser d'être tellement dans un rapport avec cette bêtise qui m'assaille et qui me fait souffrir et que je déteste et qui m'insupporte et qui ne me convient pas, et essayer au moins d'aller de plus en plus vers moi et d'essayer de me dire, de me comprendre et d'essayer de trouver en fait avec moi-même une espèce de rapport, pas pacifié, mais en tout cas où je peux me rencontrer vraiment et me dire, voilà, je peux me parler, réussir à dire ce que j'ai à dire de moi, et de ne plus devoir taire ça. Alors même si justement c'est que pour des messieurs imaginaires et qu'il a appelé ça les carnets du sous-sol, donc peut-être qu'il écrit ça sur des carnets, que ces carnets seront possiblement découverts un jour après la mort de ce héros, etc. Moi j'écris pas du tout dans le spectacle, hein. Mais voilà, mais on ne sait pas vraiment s'il y a une fin, une finitude, je veux dire, hein, dans le fait de faire ça. Mais je trouve ça d'un grand courage que de se dire, voilà, maintenant je ne peux plus tricher.
Ouais, Christophe, Lapara, vous interprétez en tout cas, je le disais en début de cette interview, hein, merveilleusement ce rôle, avec une grande justesse et énormément de générosité. Et c'est tout en douceur, enfin entre guillemets, puisque évidemment cette situation est très particulière. Mais c'est quelque chose, je trouve, de l'interprétation est magnifique. D'ailleurs, il y avait du monde hier. La pièce marche bien.
Là, c'était la première hier. On va voir, c'est la troisième saison. J'ai pas énormément de communication pour mettre des affiches, etc. Donc c'est toujours un peu un risque, quoi. Hein. Je suis très heureux déjà quand il y a du monde. Et bien sûr, comme c'est une évidence, mais ce qui me rend en plus particulièrement heureux depuis que je le joue, c'est que quasiment à chaque fois dans les salles, lors des représentations, les salles sont composées autant de personnes jeunes que de personnes d'autres âges, que de personnes âgées. Voilà. Il y a une vraie... Et ça, c'est assez rare dans les salles de spectacle, et c'est encore plus rare quand on se dit que c'est un test de Dostoïevski, que des gens jeunes viennent, par exemple. Et beaucoup de ces gens, après, viennent me parler. Ce que j'aime bien maintenant, c'est que je propose à la fin aux gens qui le veulent qu'on se retrouve au café pour échanger, discuter. Et il y a des gens qui viennent. Pas tous, bien évidemment, mais c'est des moments formidables. Et je suis, moi, ravi d'entendre que des gens jeunes sont touchés. Là, par exemple, j'ai vu aujourd'hui qu'il y a trois personnes, un couple et leur enfant, ils ont mis un commentaire sur
les réseaux,
en disant qu'ils sont venus avec leur garçon de 16 ans, qu'ils ont passé un moment formidable, qu'ils trouvent ça magnifique et qu'ils me remercient. Donc je me dis, mais qu'aujourd'hui, un garçon de 16 ans entendre cette pensée-là dans le moment dans lequel nous sommes de folie totale, ben moi je trouve ça extraordinaire.
Écoutez, c'est formidable. Je crois qu'on va conclure là-dessus, Christophe Lapara. Merci beaucoup. Merci. On rappelle les dates,
hein,
du spectacle. Je vous laisse. Ouais.
Alors ça se joue du 10 novembre jusqu'au 20 janvier. C'est les lundis à 21h et les mardis à 21h.
Très bien, donc au théâtre Essaillon à Paris, en face de Beaubourg. On cite peut-être toute votre équipe artistique.
Oui, alors la traduction, c'est André Markovitch. Le texte est édité aux éditions Actes Sud, collection Babel. Moi, je fais la mise en scène, la scéno, et je le joue. L'adaptation du texte, la dramaturgie sur le travail de la mise en scène et la direction d'acteur, c'est été fait par Marie Ballet. Et la création lumière a été réalisée par Xavier Bernard Jaoul.
Merci beaucoup. C'est donc les carnets du sous-sol au théâtre. Essayons.
Et si je peux rajouter, donc ma compagnie qui produit le spectacle s'appelle Théâtre de Paille.
Oui, et vous fêtez les 30 ans de la compagnie.
Cette année, voilà, absolument.
Au revoir, merci.
Au revoir, merci.
Ne me quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oubliez les temps des malentendus et les temps perdus à savoir comment. Oubliez ces heures qui tuaient parfois à coup des pourquoi. Au cœur du bonheur, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. Ne me quittez pas. Moi je t'offrirai des perles et des pluies venues des pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine. Ne me quittez pas. Ne me quittez pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ces rois morts de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. On a vu souvent
voglio dire dell'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il des terrains brûlés donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et combien les soirs pour qu'un tiers plein bois, les rouges et les noirs, ne s'opposent-ils pas? Ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. Ne me quittez pas. Me cacharé là à te regarder dans ses sourires.
Non me quitte pas, non me demas.
À t'écouter, chanter et rire. Laissez-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais non, ne me quitte pas, non, ne me quitte pas.
BFM Radio, bien plus qu'une radio.
Nous venons d'entendre Ne me quitte pas, Yuri Buenaventura, formidable chanteur colombien. Et nous recevons Monsieur Claude Mollard. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup et très honoré de vous avoir sur nos antennes. Nous allons parler de Cléopâtre, le mystère. Cléopâtre, la fameuse exposition de l'Institut du Monde Arabe jusqu'au 11 janvier à Paris. Formidable exposition. Alors pourquoi, pour moi, elle nous fait réfléchir sur cette figure populaire universelle et nous permet de mieux la connaître. Car finalement, eh bien, vous allez nous en parler, mais nous avons l'image d'une Cléopâtre, de sa beauté fatale, et cette icône, nous avons l'image de cette icône, de ce mythe, de cette légende qui a traversé plus de 2000 ans d'histoire. Alors finalement, Monsieur Mollard, on sait peu de choses finalement sur Cléopâtre, en tout cas sur son physique. Est-ce vrai?
C'est tout à fait vrai. Nous avons conduit une enquête, une vraie enquête scientifique avec des spécialistes de l'Antiquité, de la peinture, de l'histoire de la peinture, du cinéma, du théâtre, etc. Parce que Cléopâtre, finalement, a été une création collective des artistes, des intellectuels, des écrivains. Et donc, tout le monde s'est emparé de cette légende qui nous avait été laissé par, au fond, les vainqueurs de Cléopâtre, c'est-à-dire les Romains, c'est-à-dire l'empereur Auguste. Et donc, les vainqueurs avaient donné leur interprétation, que Cléopâtre était une femme prostituée, une femme vulgaire, une ambitieuse, etc. Et donc, c'était, au fond, le destin d'une vaincue. Mais elle leur avait tenu tête pendant plus de 20 ans.
Alors évidemment, parmi les incarnations, on pense à celle de Sarah Bernhardt. Hein. C'était en quelle année? C'était au théâtre, hein, bien sûr.
C'était au théâtre en 1898. Ah oui. Dernière pièce jouée par Sarah Bernhardt avant que Cléopâtre soit jouée au cinéma en 1899.
Oui, et puis Lys Taylor. Le rôle de Cléopâtre, un fameux rôle de Lys Taylor.
Évidemment, donc, en fait, finalement, il n'y a pas une Cléopâtre. Il y a des dizaines, il y a des centaines de Cléopâtres. Cléopâtre devient une sorte d'idéal féminin incarné par toute une série de femmes.
Oui.
Qui l'ont idéalisée.
Est-ce qu'on peut dire qu'elle est devenue objet de marketing, bon, bien évidemment, hein, tardivement. Est-ce que ça serait après 1960-63, après le film?
C'est après Liz Taylor.
Oui.
Absolument.
Oui. Alors, il y a eu également certains poètes, philosophes de l'Antiquité n'ont pas été toujours, on va dire, très, très sympas avec elle.
Hein? Oui, parce qu'ils la critiquaient parce qu'elle leur résistait. C'est la première femme qui a osé dire non à des grands politiques.
Oui. Alors, c'est ça qui est bien, c'est que dans l'exposition, eh bien, on retrouve justement des œuvres, des morceaux, des passages d'œuvres littéraires où on voit un peu comment les critiques sont acerbes.
Hein. Elles sont acerbes du côté des Romains, mais du côté des Arabes qui ont parlé également de Cléopâtre dans des chroniques historiques. La vision de Cléopâtre est tout à fait différente. Elle est considérée, notamment par les Éthiopiens, comme une femme d'État qui était juste, qui a su gouverner et qui a su, notamment, satisfaire les désirs de son peuple quand il était, par exemple, confronté à des famines.
Oui, et puis je pense aussi à ces passages que j'ai beaucoup aimés de Virgile ou Horace, qui la voit plutôt comme une femme décadente, courtisane, etc.
Oui, mais ça c'est pour la salir en quelque sorte, et pour justifier l'occupation et la domination de l'Égypte par les Romains à partir de 30 avant notre ère.
Oui, merci beaucoup Claude Mollard d'avoir fait un flash avec nous sur le mystère Cléopâtre qui se passe actuellement à l'Institut du Monde Arabe jusqu'au 11 janvier. Bon, le succès, on n'en parle plus parce que vous avez un succès fou avec cette exposition.
Oui, parce que ça vaut le déplacement.
Ah oui, complètement.
Si je puis dire.
Merci beaucoup Claude.
Je vous en
Claude,
prie.
Merci de nous avoir consacré ces quelques minutes pour cette interview flash sur le mystère de Cléopâtre.
C'était un plaisir.
Merci. Eh bien, chers auditeurs, l'émission touche à sa fin. Je voulais quand même vous signaler mes coups de cœur. Alors justement, eh bien, au César. Alors ça, c'est un lieu qui est à Montparnasse. Au César, bah, c'est un lien avec Cléopâtre, c'est un lieu de musique. Et donc vendredi le 21 à 20h, le groupe Manmaïla, donc c'est de la musique caribéenne, 12 musiciens, et Francky, notre cher régisseur de la radio qui s'occupe des studios, sera donc à la batterie vendredi prochain, le 21 novembre à Montparnasse, dans le lieu qui s'appelle Au César, formidable musique caribéenne. Voilà, et bien moi, je vous retrouve vendredi 28 pour toute la culture que j'aime. Et vendredi prochain, vous retrouverez Marie-Laure. À très bientôt.